Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Ce lundi 25 janvier marque le début d'une semaine clé pour un éventuel reconfinement. Il y aura des décisions à prendre, dit Jean Castex. La décision sera prise effectivement en fonction des résultats du couvre-feu, mais les variants du virus ont changé la donne. Les Français sont-ils prêts? Un hashtag « Je ne me reconfinerai pas » a fait son apparition. Les vaccins sont là, mais encore au compte-gouttes. Y a-t-il des espoirs de traitement? Nous ferons le point avec l'infectiologue Robert Sebag. Dans RTL Midi aussi, cette parole qui continue de se libérer contre l'inceste avec dépôt de plainte. Le neveu du célèbre producteur de télévision Gérard Louvain accuse le mari de celui-ci de viol et Gérard Louvain de complicité. Et puis nous nous interrogerons sur l'ultra-violence après l'agression de Youri, 15 ans, à Paris. Le coup de cœur de nos correspondants nous emmène aujourd'hui à Châteauroux, où les restaurateurs, même contraints à la fermeture, savent nous faire saliver. Ce sera en fin de journal. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Enfin un peu de lumière.
Eh bien oui, je vois ça dans la moitié ouest, là le soleil est revenu, on a un petit effet anticyclonique. Donc du soleil de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, du Val-de-Loire à l'Île-de-France, ça y est, là l'Île-de-France retrouve quelques belles éclaircies. Même chose dans le sud-ouest, près de la Méditerranée, là aussi le soleil gagne du terrain. Il reste des nuages et quelques pluies au pied des Pyrénées, ça sera encore le cas cet après-midi. Puis c'est vrai que du Massif central à la Lorraine, Alsace ou encore du côté de la région Rhône-Alpes sur les Alpes, là on aura encore des nuages, voire quelques flocons tout près des frontières, mais on devrait retrouver quelques éclaircies en cours d'après-midi. Et puis sur la Corse, beaucoup d'instabilité. Toujours beaucoup de vent. Les températures, ben, elles restent hivernales. Hein. On sera entre 4 et 6, 7 degrés seulement dans la moitié nord, un petit peu plus en Bretagne. Et puis dans le sud, on sera entre 8 et 10 degrés dans le sud-ouest, de 11 à 14 degrés quand même près de la Méditerranée.
La question du jour sur RTL.fr. Acceptez-vous l'idée d'un troisième confinement? Eh bien alors là, vous êtes à égalité. Hein. 47% de oui, 47% de non. Égalité parfaite, c'est assez rare. Défendez votre opinion au 32-10. Bonjour Pascal Praud.
Mais c'est intéressant cette consultation parce que c'est le sentiment également qu'on a lorsqu'on parle comme ça au hasard avec les uns et les autres. C'est que une forme de 50-50 qui arrive souvent sur ce thème. Est-ce que vous redoutez en tout cas un reconfinement? Vous pourrez nous donner votre avis. L'autre sujet important du jour, c'est la société est-elle de plus en plus violente? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Vous avez peut-être vu ces images de Youri, on va en parler dans un instant. Et puis taisez-vous. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Académie nationale de médecine qui recommande d'éviter de parler, non pas à la radio, mais de téléphoner dans les transports en commun, même masqués. Alors qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons prendre nos voitures, peut-être, et donc faire plus de pollution si nous voulons parler en même temps? C'est pas là où il y a le plus de discussions dans le métro. Généralement, les gens se taisent et lisent leur journal ou lisent leur bouquin. En tout cas, vous pourrez réagir sur ce sujet.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Pourra-t-on échapper à un troisième confinement? Les scientifiques, à l'image de Jean-François Delfraissy, poussent. Les variants changent complètement la donne, expliquait hier encore le président du Conseil scientifique. Un an après le début de l'apparition du virus sur notre territoire, l'exécutif a de nouveau des décisions douloureuses à prendre. Et les images venues des Pays-Bas n'ont rien de rassurant. La police, pillage de magasins, l'instauration du couvre-feu pour la première fois dans ce pays depuis la Seconde Guerre mondiale a déclenché des émeutes. Ici, on voit monter depuis quelques jours un hashtag « Je ne me reconfinerai pas » et c'est toute la question de l'acceptabilité sociale qui se pose, Vincent Derosier.
Oui, et le sujet est pris très au sérieux. Il est désormais débattu dans toutes les réunions de la majorité. Les Français sont respectueux pour l'instant, explique un ministre. Mais le vent peut tourner vite. Plusieurs membres du gouvernement ont d'ailleurs dit à Emmanuel Macron de ne surtout pas faire de reconfinement préventif. La crainte, c'est notamment que les commerces, les restaurants ou les coiffeurs refusent de fermer et que le mouvement devienne ingérable, y compris pour la police. Alors à chaque restriction annoncée, le gouvernement se plonge pour l'instant dans les enquêtes d'opinion pour voir comment les Français réagissent. Mais le député Agir du Haut-Rhin, Olivier Becht, lui, sent que la population n'en peut plus.
Nos concitoyens sont vraiment au seuil de l'acceptabilité.
on ne voit pas de lumière au bout du tunnel. Il y a deux risques aujourd'hui, c'est évidemment la désobéissance civile, et puis on voit qu'il y a une multiplication aujourd'hui des suicides, on voit également qu'il y a de la violence à l'intérieur des foyers.
Désobéissance civile, violence ou détresse psychologique, les motifs d'inquiétude ne manquent pas, et c'est aussi pour ça que le président de la République ne veut pas entendre parler pour l'instant de fermeture des écoles, une mesure qui paralyserait de nouveau l'ensemble du pays.
Vincent Derosier, alors reconfinement partiel, régional, total. L'Organisation nationale des chambres de commerce et d'industrie redoute une fermeture des commerces alors que les soldes ont débuté depuis moins d'une semaine. Pierre Goguet préside cette organisation et son plaidoyer, vous allez l'entendre, est assez poignant.
Ah ben vous imaginez, il y a 4 semaines de soldes. Si on confine en fin de semaine, ça veut dire qu'on aura amputé des 3/4 la période de soldes qui est la seule manière pour eux de refaire un peu de trésorerie. Après, il y a l'aspect psychologique. On a des commerçants qui sont en détresse parce qu'ils peuvent pas travailler, quoi. Évidemment, le secteur fermé en numéro un, mais là, ça va être tout le monde. Et donc, vous savez que nous, on a formé 800 conseillers sur la détection des signaux faibles au sens psychologique du terme, parce qu'il y a des vraies détresses. Et là, je crois que, malgré tous les SOS numériques qu'on a mis en place, les entrepreneurs et commerçants sont pas du tout prêts à recevoir un coup de plus qui serait une fermeture totale, quoi.
Le président de CCI France, Pierre Goguet, avec Armel Lévy. On est toujours dans une course contre la montre entre les variants du virus et les vaccins, mais on parle peu ou pas de traitements possibles. L'Allemagne vient de commander pour 400 millions d'euros d'un traitement prometteur, celui qui avait été administré à Donald Trump. C'est l'occasion de faire le point avec Robert Sebag. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Parlez-nous de ce traitement qui n'en est qu'aux essais cliniques. On évoque un cocktail d'anticorps. De quoi s'agit-il ?
Bon, d'abord, c'est vrai que le traitement pourrait régler définitivement le cas de ce virus. On n'en est malheureusement pas encore là. Alors, vous avez effectivement plusieurs pistes. Bon, il y a cette piste effectivement de ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux. C'est ce qui avait été, comme vous l'avez rappelé, institué à Monsieur Trump, qui apparemment avait donné de bons résultats. Mais bon, peut-être que sans ce traitement, on aurait eu aussi des bons résultats, ce qu'on voit souvent à l'hôpital. J'ai vu que l'Allemagne en avait commandé pour 400 millions d'euros. Oui. Ce produit n'est pas encore enregistré en Europe. Je pense qu'il va être regardé. Il faut savoir que c'est un traitement extrêmement coûteux. Extrêmement coûteux.
Et oui, c'est 2000 euros par personne, enfin par traitement.
Oui, par traitement. Donc, vous voyez, sur le nombre de personnes qui sont en réanimation hospitalisée, donc c'est énorme. Il faut aussi que ça en vaille vraiment la chandelle. Après, on a tout essayé. Inutile de vous dire, nous avons essayé les antirétroviraux qui marchaient dans le sida. Ça n'a pas marché. Je pense au remdesivir ou d'autres produits. Bon, l'hydroxychloroquine, on ne va pas relancer le débat. Sur ce médicament.
Alors, le débat est réglé sur l'hydroxychloroquine.
Il est réglé. Il est réglé. Après, vous avez la vitamine D. Alors, on parle beaucoup de la vitamine D. Bon, la vitamine D, nous, le médecin, on a l'habitude en hiver de le prescrire par l'absence de soleil. Mais rien n'est prouvé aujourd'hui que la vitamine D jouerait un rôle. J'ai vu qu'il y avait une razzia dans les pharmacies. Oui. Il faut être extrêmement prudent. Il faut pas se mettre en hypervitaminose D si on en prend trop, puisque c'est une dose à peu près pour 3 mois. Ça n'a pas montré non plus son efficacité. Et puis vous avez, depuis hier, il y a eu une publication chez nos amis québécois sur la colchicine. Alors la colchicine, effectivement, est un médicament qu'on connaît bien, qu'on prescrit dans les problèmes de gouttes en particulier. C'est un anti-inflammatoire dans les maladies de B7 qui sont des atteintes, si vous voulez, au niveau des petits vaisseaux, des vascularites, etc. On est en train de le regarder. Il y aurait une logique, si vous voulez, d'utiliser ce produit qui a aussi des vertus anti-inflammatoires. Mais là aussi, c'est très, très, très préliminaire. Donc, il faut pas donner de faux espoirs. Tout ça pour vous résumer, pour vous dire que ce qu'il reste vraiment aujourd'hui, qui est plus en notion de préventif et pour éviter les cas graves, c'est la vaccination, malgré les soubresauts. Voilà. Mais on regarde, vous savez, on essaye des anciens produits, on regarde un petit peu. Mais je suis vraiment, j'aurais tellement voulu vous dire, là vraiment, il y a un espoir majeur, ce n'est pas le cas.
C'est bien.
Et donc, on continue à chercher.
Ça nous plombe un peu le moral, mais c'est bien de l'avoir dit, en tout cas. Donc, c'est le vaccin, pour l'instant, c'est le vaccin.
C'est le vaccin, mais il faut qu'il soit quand même à disposition.
Voilà.
Et vous savez, par exemple, moi-même, j'ai reçu la première dose. On m'a averti ce matin, je devais de recevoir la deuxième dose. Je suis hospitalier à la Pitié-Salpêtrière. Ben, les doses ne sont pas arrivées. Donc, ma deuxième dose, elle est retardée de plus d'une semaine.
Voilà.
Sans compter les gens qui n'ont pas reçu encore leur première dose.
Bien sûr. Les doses sont au compte-gouttes en ce moment. Merci beaucoup, Robert Sebag, d'avoir fait le point avec nous. Infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Dans un instant, une nouvelle plainte pour inceste de la part du neveu du célèbre producteur de télévision Gérard Louvain.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Pourquoi un tel déchaînement de violence sur la dalle de Beaugrenelle dans le 15e arrondissement de Paris, alors que Youri, cet adolescent de 15 ans passé à tabac, est sorti du coma? L'enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire n'en est qu'à ses débuts. S'agit-il d'une bagarre entre bandes rivales? C'est l'une des hypothèses, Guillaume Chiez.
Oui, car au départ, les témoins qui préviennent la police parlent d'une rixe entre deux bandes, mais pour l'heure, impossible de déterminer si Youri était impliqué dans cet affrontement ou s'il en est une victime collatérale. L'analyse des objets retrouvés sur place qui auraient pu servir à son agression n'a pour le moment rien donné, tout comme l'exploitation de la vidéosurveillance. La scène est filmée de loin, la dizaine d'agresseurs portent des sweats à capuche, impossible de distinguer leur visage. Et les enquêteurs misent sur un faux pas de l'un d'entre eux et creusent du côté de Vanves, au sud de Paris, car selon les témoins, c'est de là que viendrait la bande qui a agressé l'adolescent.
Et comment va Youri?
Après une longue opération de 6 heures la semaine dernière, Youri a entamé ce week-end un réveil progressif. Ce matin, sa mère fait savoir qu'il va mieux, qu'il essaye de s'exprimer. Et c'est un point important pour l'enquête, car on peut s'attendre à ce que, si son état le permet, Youri soit entendu par la police et livre des informations qui permettraient d'identifier ses agresseurs.
Merci Guillaume. Pour aller plus loin, nous sommes avec Alain Bauer, professeur de criminologie. Bonjour.
Bonjour.
C'est l'ultra-violence qui nous a révulsés dans la vidéo de l'agression et quelque chose, on y voit une barre de fer et quelque chose qui ressemble à un marteau. Il n'y a plus de limite?
Oh, non, comme toujours, l'événement qui est tragique dans ce cas précis focalise l'attention et permet en général d'oublier la perspective. Le problème, c'est qu'en matière de violence, de criminalité, de bagarre ou d'affrontement entre bandes, ce qui est nouveau, c'est essentiellement ce qu'on a oublié et qu'on redécouvre à l'occasion d'un fait divers particulièrement médiatisé. Mais vous avez une guerre des bandes dans le 19e arrondissement avec des morts et parfois armes à feu qui sont moins visibles et moins filmées et qui provoquent moins, hélas, moins d'émotions, mais qui sont d'une bien plus grave intensité. Donc non, il se trouve que depuis qu'il y a des territoires, il y a des bandes qui s'approprient, qui protègent les territoires, puis qui se les approprient et les rackettent, et puis qui sont en phase d'expansion, ce qui amène des frottements aux frontières de ces territoires, et puis aussi des lieux de duel. Règlement de compte, parfois d'initiation, car la violence est un élément initiatique. Donc celui-ci est tragique et réveille l'opinion, mais malheureusement, il est beaucoup moins rare qu'on ne l'imagine.
Mais les bandes, c'est vraiment pas un phénomène nouveau. Qu'est-ce qui a changé récemment ?
Absolument rien. Ce qui a changé, c'est l'hypervisibilité, les réseaux sociaux, la vidéoprotection et la vidéosurveillance qui permettent de visualiser non pas l'annonce d'un événement, mais de le vivre quasiment, d'en percevoir ce qu'est la réalité de cette violence et de cette violence de un individu isolé. Mais vous pouvez retrouver les mêmes images dans les mêmes conditions concernant des...
Alors, on a vraiment un petit souci de liaison. Je suis absolument désolée, Alain Bauer, mais on a un petit problème technique qui nous permet pas de mener cette interview correctement. Je m'en excuse. Merci quand même. Le mur du silence continue de se fendre sur l'inceste après les révélations de Camille Kouchner concernant son frère jumeau. C'est un homme de 48 ans, Olivier A, qui a porté plainte le 8 janvier dernier contre son oncle, le célèbre producteur de télévision Gérard Louvain, l'homme de sacrée soirée, et surtout le mari de ce dernier, Daniel Moine, pour des faits de viol et complicité. Le plaignant reproche à son oncle, Gérard Louvain, de l'avoir jeté dans les griffes de celui qui était à l'époque son compagnon, Alice Moreno.
Oui, il l'accuse de l'avoir laissé seul avec son agresseur. Dans les années 80, Olivier n'avait alors que 10 ans. Il allait parfois dormir chez son oncle, Gérard Louvain, et son compagnon, Daniel Moine. Mais à l'heure du coucher, il se serait retrouvé seul plusieurs fois avec Daniel, cet homme qui lui aurait d'abord imposé des caresses sur le sexe, puis des masturbations, jusqu'à le forcer à lui faire des fellations. Les deux deux mises en cause démentent formellement ces accusations. Christophe Ayella est l'avocat de Gérard Louvin.
Il a toujours, depuis plus de 30 ans, été proche de son neveu. Il lui a toujours rendu des services, il lui a donné du travail, il s'est occupé de lui pendant plus de 30 ans. C'était des gens qui étaient extrêmement proches. Donc pour Gérard Louvin, il est effondré, atterré. C'est horrible, il est jeté en pâture aux médias.
L'avocat évoque un chantage. Selon lui, le plaignant aurait réclamé une somme de 750 000 euros à Gérard Louvin et Daniel Moine, sans quoi il ferait des révélations, des calomnies, insiste-t-il. Les deux hommes ont déjà été auditionnés dans les années 2010 pour des soupçons d'abus sur leur fils adoptif. L'enquête avait finalement été classée sans suite. Quant aux faits dénoncés par leur neveu Olivier, ils sont sous le coup de la prescription.
Alice Moreno. Dans un instant, le quotidien difficile des policiers alors que s'ouvre le Beauvau de la sécurité.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
Emmanuel Macron applique sa méthode du grand débat à la police. Le Beauvau de la sécurité débute cet après-midi. Une grande concertation avec les syndicats autour de ce que le ministre de l'Intérieur appelle les 7 péchés capitaux. La formation, l'encadrement, les conditions matérielles, la captation en vidéo des interventions ou encore la relation avec la population. Pour bien comprendre le vécu de ces hommes en uniforme, Sinamir, vous avez rencontré David, 22 ans de service. Il travaille en ce moment dans une BAC de l'Essonne.
Un policier dont les 22 ans passés à courir derrière les malfrats se lisent sur son visage. La mâchoire serrée, le regard dur et le teint clair rappellent les heures de nuit sous le gyrophare. Un quotidien qui pèse encore plus ces dernières années, à mesure où les agressions dans ce département se sont multipliées à l'encontre des forces de l'ordre.
C'est vrai qu'on est passé du simple outrage, rébellion, à des petites violences, à du caillassage régulier, des guet-apens réguliers. Puis ben voilà, c'est l'escalade de la violence.
Celle des téléphones portables aussi, des vidéos, autres chantiers de ce Beauvau de la sécurité sur fond de polémique autour des violences policières.
Donc tout le monde a Snapchat branché pour filmer, voir la pseudo-bavure qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que moi, beaucoup de mes collègues se posent la question de savoir si rester sur la voie publique, ça vaut encore le coup. Quoi.
Surtout que côté institution, d'autres chantiers n'ont pas beaucoup évolué depuis le début de carrière de David.
Quand vous arrivez d'une région de province ou vous êtes dans un petit village, ou que vous arrivez en région parisienne et qu'on vous lâche dans la nature, moi j'ai beaucoup de collègues, avant de trouver un appartement, ils sont en hôtel.
Avec aujourd'hui 1300 euros net sur la première fiche de paye d'un gardien de la paix.
Reportage Sinamir et portrait de David. Les femmes veulent plus de pouvoir dans le sport. Brigitte Henriques, vice-présidente de la Fédération française de football, va se porter candidate à la présidence du Comité national olympique et sportif français. C'est une information RTL. L'élection est prévue le 29 juin prochain avec en ligne de mire, évidemment, les Jeux olympiques de Paris 2024.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Coup de cœur pour un personnage, une histoire, une initiative locale. Aujourd'hui, Christian Panvert nous présente un livre de recettes inédits baptisé « Cuisine Châteauroux », fait par les restaurateurs de la ville et qui sait bien nous mettre en appétit.
Oui, c'est un bel ouvrage d'une centaine de pages avec photos qui présente 36 recettes concoctées par 12 restaurateurs. L'objectif de la jeune chambre économique est de mettre en avant leurs talents. Sylvain Frasse, coordinateur du projet.
Chaque mois de l'année est donc associé à un restaurant et à un entrée plat dessert qui va être de saison avec des produits qui marquent un peu le tempérament du chef cuisinier et de sa cuisine.
Des cavistes conseillent les vins, les recettes sont traduites en anglais. L'initiative a séduit Julien Marchès, le gérant du Petit Bouchon.
Alors moi je suis parti sur trois recettes, 100% berry avec une terrine de lentilles, fromage frais et carpe fumée, un poulet en barbouille avec de la poule noire du berry et une crème brûlée au safran parce qu'on a un joli producteur de safran qui est à Clion-sur-Indre.
Le week-end il fait de la vente à emporter et voit des clients arriver avec le livre sous le bras.
J'ai une ancienne apprentie qui est venue me voir, qui a acheté le livre pour faire un cadeau à sa maman, et puis avec 3-4 clients aussi. Ils sont arrivés avec le livre, une petite dédicace, bon bah j'ai fait une petite griffe. C'est marrant.
Alison apprécie l'initiative et ça lui donne déjà envie, dès que ce sera à nouveau possible, d'aller chaque mois dans un restaurant différent.
Et pourquoi pas aller chercher les signatures de chacun. Ça peut être une idée également, un challenge.
Cuisine Châteauroux est disponible dans toutes les librairies du département et sur le site de la Jeune Chambre économique.
Merci Christian, en plus ça nous donne de bonnes idées pour cuisiner en attendant de retrouver nos restos préférés. Le Vendée Globe tourne décidément à la régate. Tout est ouvert à deux jours de l'arrivée au Sable d'Olonne. Charlie Dalin ne compte plus que 20 000 duels d'avance sur Louis Burton et ils sont 5 à pouvoir encore l'emporter, sans compter les heures de compensation dont bénéficieront certains qui s'étaient détournés pour tenter de sauver Kevin Escoffier début décembre. C'est donc un suspense insoutenable. Et on retrouve Pascal, avec qui vous allez dialoguer dans 5 minutes.
Et si j'ai bien compris, celui qui sera premier sera peut-être pas premier.
Voilà, exactement.
C'est drôle quand même.
À cause du bonus de compensation dont
oui,
vont bénéficier
étrange.
Certains.
Mais et il n'y aura personne non plus pour accueillir.
La question n'est pas définitivement réglée.
Le maire des Sables d'Olonne, j'ai entendu sur l'antenne, il le regrettait, mais il n'y aura personne, pas de public. Le préfet ne veut pas, le préfet de Vendée.
Ça va être lunaire hein, pour les skippers après.
Bon, Jean Castex vient de dire que des décisions seront prises cette semaine.
On s'y attendait.
On s'y attendait. C'est incompréhensible. D'un côté, l'exécutif dit qu'il ne veut pas de reconfinement, c'est ce qu'il laisse dire, en tout cas c'est ce que j'ai entendu aussi sur l'antenne d'RTL, les sources élysées, comme on dit. Et de l'autre, vous avez Jean-François Delfraissy, Karine Lacombe, quelques médecins qui montent au créneau pour dire il faut reconfiner. Et nous, on est au milieu. Donc, je ne sais pas ce que veulent les gens. 50-50, c'était la consultation du jour. En tout cas, on va les interroger. Est-ce qu'ils sont prêts au confinement? Est-ce qu'ils veulent ce confinement? J'ai entendu évidemment des gens aujourd'hui qui sont dans un état, des commerçants. C'est très compliqué d'avoir une idée définitive là-dessus. Si on nous disait c'est le dernier confinement, mais on a le sentiment qu'après ce confinement, il y aura confinement 4, confinement 5 et qu'on y est encore dans 10 ans, avec ces variants, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir donner votre avis, bien évidemment, comme vous pourrez parler également d'une société peut-être de plus en plus violente, même si il y avait une forme de placidité chez Alain Bauer. Qui disait, qu'est-ce qui a changé? Rien. Simplement, c'est visible aujourd'hui.
Mais c'est vrai que c'est visible, c'est beaucoup plus visible aujourd'hui.
Effectivement, clairement. La vidéo existait moins il y a quelques années, mais c'est vrai qu'on parle de ces affaires parce qu'elles ont été filmées. Autrement, on n'en parlerait pas.
À tout de suite.
À tout de suite.
Louis Baudin, la météo est toujours aussi froide.
Oui, c'est vrai qu'on peut commencer par les températures. Alors malgré le retour du soleil, il y a 1 à 3 degrés seulement, par exemple en Alsace, Lorraine ou encore Franche-Comté, 4 à 5, 6 degrés dans la moitié nord, un petit peu plus quand même sur les côtes bretonnes, puis dans le sud, allez, on ira un peu plus haut, 8 à 9, 10 degrés dans les régions du sud-ouest, ça n'est pas de saison, et 11 à 14 degrés, là c'est mieux quand même près de la Méditerranée. Tout ça en revanche avec un ciel un peu plus lumineux. Alors déjà dans la moitié ouest, ça arrive sur l'Île-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, sur la Champagne également quelques éclairs. Si cet après-midi, du soleil dans la moitié sud, de l'Aquitaine jusqu'à la Méditerranée, sauf en Corse, on aura encore de l'instabilité avec du vent fort. Et puis près des Pyrénées, là aussi, on commence à avoir un ciel nuageux avec quelques averses sous forme de pluie ou de neige. Puis dans le nord-est, bon, voilà, ça restera encore nuageux avec quelques flocons. Je les vois là sur les images radar circulant entre le Jura, remontant vers les Vosges, Lorraine ou encore Alsace, quasiment jusqu'en plaine. Et puis tout cela devrait persister cet après-midi.
Bon, et demain, une belle journée d'hiver?
Eh ben oui, parce que demain matin, on retrouvera des conditions anticycloniques très temporairement, avec donc un ciel presque partout dégagé. Oui. Quelques flocons dans le nord-est, déjà des nuages sur la Bretagne. Du coup, les températures sont particulièrement basses demain matin, avec des gelées quasiment partout. Puis en cours d'après-midi, toujours du temps sec, mais c'est vrai que dans la moitié ouest, ça deviendra déjà plus nuageux. Pas encore de précipitations, sauf sur la Bretagne. Et puis dans l'est et le sud, toujours beaucoup de soleil.
Non, mais c'est le dernier jour de froid, de grand froid de la semaine, c'est
exactement,
ça,
parce qu'après, on repasse en circulation océanique avec de la douceur, mais de la pluie.
Merci Louis. Allez, à suivre le rappel des titres, il va être 13h sur RTL.
RTL.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et vous avez sans doute vu ces images de Yuri, un adolescent de 15 ans passé à tabac le 15 janvier à Paris. C'est ce qui vous fait réagir pour le moment au standard. Bonjour Christophe, vous êtes policier.
Bonjour Pascal.
Et ce type d'agression arrive régulièrement ?
Malheureusement, à nouveau, régulièrement.
On va en parler dans une seconde après le rappel des titres avec Christelle.
Un reconfinement est-il évitable ? L'exécutif a une décision lourde à prendre cette semaine, mais la circulation des variants du virus a changé la donne. Les chambres de commerce et d'industrie implorent le gouvernement de laisser les magasins ouverts alors que les soldes viennent à peine de commencer. Le retour de la réforme de l'assurance chômage. La concertation reprend avec les partenaires sociaux. Elle vise à réaliser plus d'1 milliard d'euros d'économies par an en durcissant les règles d'indemnisation et en taxant le recours abusif aux contrats courts. cours. Une réforme qui ne devrait s'appliquer de toute façon que lorsque l'emploi s'améliorera. Après son faux départ la semaine dernière à cause du Covid, le procès en appel de l'ex-secrétaire d'État Georges Tron a démarré ce matin devant la cour d'assises de Paris. Il est accusé par deux anciennes employées de sa commune de viol et d'agression sexuelle sous couvert de séances de réflexologie plantaire. Georges Tron avait été acquitté en première instance. La parole continue de se libérer contre l'inceste avec dépôt de plainte. Le neveu du célèbre producteur de télévision Gérard Louvain accuse le mari de celui-ci de viol et Gérard Louvain de complicité.
Les auditeurs ont la parole.